vient du Morbihan, donc c'est encore différent d'ici. Puis ici, Port-Blanc, c'est le village d'Anatole Lebras, qui a beaucoup écrit sur la Bretagne. Alors, parce que c'est mes vacances d'hiver déjà, hein, puis comme je suis breton, bah, je suis amoureux de la Bretagne, donc je ne me lasse pas de regarder les paysages.
On essaie de profiter de tout.
Attention à la marée.
Il faut faire attention à la marée. Mieux marcher au bord de la mer que regarder la télé. Hein.
C'est joli, c'est jamais le même paysage en plus.
Non, puis toutes les saisons sont belles en fin de compte. Aussi. Ouais. On profite vraiment
on
du littoral.
On s'occupe de notre retraite. Hein. On n'est pas des inactifs.
On essaie de profiter de tout.
Ah ouais.
C'est nous qui leur faisons découvrir le coin quand même. Hein. On est là depuis 2 ans.
Le 16 mars 1978, vers 22h30, la Mococadis, construite en 1974, a échoué au large des Cents, sur les rochers de Port-Saint. Le pétrolier de 300 mètres de long, piloté par le capitaine Bardari, victime d'une avarie du gouvernail qui le poussa à dériver sur les côtes.
Le pétrolier appartenait à la filière Standard Oil et à l'armateur américain Amoco-Cadiz. Il a déversé environ 220 000 tonnes de pétrole brut et 3 000 tonnes de fuel, qui se sont déversées sur 400 km, allant de Brest à Saint-Brieuc. Il a provoqué une catastrophe écologique majeure. Ont été touchés 25 000 oiseaux et une centaine de milliers de poissons qui périssent dans la catastrophe.
Un grand effort de la population, aidé par des bénévoles, des militaires, des agriculteurs, s'est déployé pendant 4 mois.
Je vais dire quelque chose quand même que je me rappelle. Oui. Donc, la Mococadis disait depuis quelques jours, il était là en mer en difficulté, mais il y avait du vent, il y avait la tempête, il y avait un crachin. Et c'était le 16 mars, donc 78. Mais moi, ce que je me rappelle surtout de cette époque de la Moco, c'est le matin, c'est quand on m'a appelé de la sous-préfecture qu'il y avait un bateau qui venait de s'échouer sur la côte et il y avait du mazout qui arrivait sur nos planches. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Je suis allé au bout de l'étape, là-bas, regarder, parce qu'il ne faisait pas encore jour, et je voyais qu'il y avait de la lumière encore sur le bateau. Mais j'avais pensé d'abord qu'il était déjà arrivé à l'Empole, mais à voir comme ça, non, il n'était pas à l'Empole. Il était là-bas un peu plus loin que la plage de Triompa, là. Mais on le voyait bien. Et puis je suis descendu donc avec mon employé communal, qui était Mathieu Briand à l'époque. Je suis descendu avec lui à la plage. Alors là, j'avoue très sincèrement, quelque chose qui m'a choqué, ou c'est moi qui étais devenu sourd, parce que là, habituellement, dans ce secteur-là, Porzic, qu'on l'appelle, et Carré la Une, on a toujours le bruit de la mer. Toujours, toujours, toujours. Et là, plus aucun bruit. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui est devenu sourd. Mais heureusement que mon compagnon, Mathieu, il me dit, mais moi non plus, qui j'entends plus rien. parce que la commune qui a été la première polluée avec le naufrage de la Moco, c'était l'emporte d'Almirlo, parce que le vent était au nord-ouest, donc ça amenait le mazout vers l'emporte d'abord. Et le lendemain matin, quand la mer s'est retirée, ben, il y avait des déchets partout, des pièces de bureau, des chaises, des portes, toutes, des bidons d'huile. Parce que j'avais un tracteur qui avait une fourche dessus, et avec mon tracteur et cette fourche-là, j'arrivais à soulever les bidons, étaient des bidons d'huile, 200 litres, et je n'avais remonté 24 de la plage, quand la mer était descendue. Non, mais enfin, c'était comme ça. Hein. Et puis, avec la longueur du temps, après, le mazout, de la quantité qu'il y avait, on parle maintenant là, un peu d'une autre catastrophe qui s'est produite depuis, là, l'Erika, oui. Mais c'était un film à côté de la Moco. La Moco, c'était un bateau qui faisait plus de 300 mètres de long. Et il était plein ras-le-bord. Alors, et toute la côte d'ici, là, de chez nous, jusqu'à, bon, déjà, jusqu'au Côte d'Armor, là-bas, c'est pas arrivé jusqu'à Saint-Brieuc, mais je crois que jusqu'au la côte là, des Grands Hydros, là, ça devait arriver. Toute cette côte-là a été polluée et tout avec. Dans la mer Benoît, hein, quand la mer est arrivée au plus haut, mais le mazout était arrivé jusqu'à, on appelle ça le Grand Moulin, qui est au bordure de la route de la départementale 28, là. Ben, c'est arrivé là. Ah oui, c'est engouffré là-dedans. Hein. Vous pouvez voir que pour nettoyer ça, bien sûr. Il y a eu les tonalisiers, pour, on faisait des trous, puis les tonalisiers les aspiraient, puis on amenait ça, on a mis une grande bâche dans un endroit de la dune, là où il y avait un trou, et on les déversait là-dedans, et de là, il y a des camions spéciaux de raffinerie, de donche, quoi, qui viennent le prendre. Oui.
Après la catastrophe, les communes attaquent aux États-Unis car c'est là qu'elles pensent avoir les meilleures chances de gagner.
On avait décidé avec le sénateur maire Mézo à l'époque, enfin il n'était pas sénateur la tête, mais il était maire, Alphonse Hazel, on a décidé d'intenter un procès à la Moco. Mais notre procès a duré 12 ans. Oui. Et moi, en tant que maire de ma commune à l'époque, ben, j'ai été à Chicago. Au procès. Ben oui, cette grande ville là où je m'appelle, quand j'étais petit garçon, on ne nous parlait pas des États-Unis, on nous parlait du Nouveau Monde. Et dans ce Nouveau Monde, on nous avait dit, il y a une grande ville où les vaches et les bœufs rentrent par une porte dedans et sortent en bois de l'autre côté. Alors, vous savez, j'avais 9 ou 10 ans. Ben, on avait des yeux plus gros que les bœufs sur moi. Et bien finalement, voilà, Lambeco m'a amené à Chicago. Ah oui.
Après la catastrophe, les communes attaquent aux États-Unis car c'est là qu'elles pensent avoir les meilleures chances de gagner. Paris réussit. Au bout de son marathon judiciaire de 12 ans, le 11 avril 1984, le juge McGuire déclare Amoco responsable. Une décision historique qui fera jurisprudence, clamèrent les Bretons.
Après le jugement, s'ouvre alors un second procès sur la délicate question des indemnités. Des dizaines de maires défilent devant le tribunal pour plaider leur cause. Nous n'avons eu que 15% de ce que nous demandions, se souvient Jean-Yves Simon. Le procès aura coûté environ 15 millions d'euros au syndicat mixte en frais, somme remboursée par l'État aux victimes. Avec l'argent de l'AMOCO, les communes ont financé des équipements publics.
De la catastrophe, il reste aujourd'hui le souvenir de colère noire, de combats hippiques menés jusqu'à Chicago chez Amoco.
Les tempêtes ont disloqué l'épave du pétrolier. Celle-ci est devenue un refuge pour poissons et crustacés. Seule l'ancre, les deux pattes brisées, a été récupérée.
Les touristes se font photographier devant le morceau de 20 tonnes, scellé comme un symbole sur le terre-plein du port de Port-Sal, en guise de mémorial. La marée noire de l'Amoco Cadiz fait maintenant partie de l'histoire.